Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, il est 11h30 et nous sommes en direct sur Immo et Territoria, ici avec nos amis de Procivis, qui sont nos hôtes où on a couvert cet événement, le 84e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. On fait le tour justement des fabricants de la ville, des influenceurs, des patrons de syndicats également. Ça tombe bien, on a une patronne de syndicat et on va pas bouder notre plaisir. On l'accueille sur le plateau habitué des plateaux de Radio Immo, Daniel Dubrac. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Une belle événement dans un écrin particulier. Montpellier, c'est quand même un lieu en pleine transformation. Présidente de l'UNIS, première question que j'ai envie de vous poser. Quand on est présidente de l'UNIS, bien là, on comprend pourquoi vous êtes là, mais qu'est-ce que vous venez exactement y chercher ? Quel est votre ressenti sur l'impression que vous a donné ce 84e congrès ?
Une impression de beaucoup de professionnels qui sont là, d'abord sur un territoire quand même bien sympathique, avec un temps meilleur que celui de Paris. Des professionnels avec lesquels on a des partenariats, avec lesquels on a des problématiques à régler, à regarder, une concertation. C'est quand même très intéressant. En plus, je profite du fait qu'on est sur le stand de Procivis. Et peut-être que vous ne le savez pas, on va signer une convention nationale Procivis Unis, puisqu'on a des adhérents de Procivis, Immo de France par exemple, qui sont des adhérents, et donc on va améliorer le partenariat, la veille juridique, et puis surtout les échanges finalement de travaux que nous faisons ensemble sur le logement, que ça soit social ou privé.
Vous êtes très impliqué de par vos fonctions, parce que alors vous avez des fonctions incroyables. Vous êtes présidente de la CCI de Seine-Saint-Denis, présidente de l'UNIS, vous dirigez vos propres entreprises. On se demande même de temps en temps quand vous dormez, parce que vous avez un agenda de ministre pour le coup. Vous êtes toujours très impliqué, vous avez toujours été très impliqué dans le monde du logement social. Vous avez toujours eu des liens solides avec le monde du logement social.
Bah oui, c'est normal. On a le même objectif, c'est de loger des gens. On a l'objectif aussi de rénover aujourd'hui par rapport à la loi climat et résilience. On a aussi les chambres de commerce, vous en parliez, ce sont des chefs d'entreprise, donc ils ont l'angoisse quand ils ont trouvé des collaborateurs de les loger aussi près de l'entreprise. Donc tout ça, ça fait un tout. La relation emploi-territoire et emploi-logement est quelque chose qui est très important pour nous. L'équilibre habitat-emploi est très, très important pour nous.
Alors, vous avez publié un post sur LinkedIn, parce que chaque semaine, vous faites votre article. On attend avec impatience chaque semaine le mot de la présidente. Très bien fait.
Et on va y insérer le chiffre de la semaine.
Voilà. Très bien fait. Il manque plus qu'un petit podcast qui va avec. Ouais, non, mais je vous taquine. Très bien, très nourri. Vous avez réagi positivement sur la nomination de Valérie Létard. Alors effectivement, une députée sénatrice très affûtée, qui a piloté la loi ZAN, qui était un proche, qui est toujours proche de Jean-Louis Borloo, et qui a travaillé au niveau de l'ANRU, donc quelqu'un qui connaît bien à la fois le monde du logement social, mais du logement tout court. Vous avez salué sa nomination. Qu'est-ce que vous attendez de Valérie Létard, sachant que pour la première fois depuis 7 ans, un peu plus de 7 ans, depuis la nomination... l'élection d'Emmanuel Macron, c'est la première fois que sur les 38 ministres, il y en a 16 de plein exercice, dont le logement.
Alors déjà, comme d'autres, comme tous ceux qui sont ici au congrès HLM, on a salué l'expérience de cette personne à travers son Sénat, à travers même son... elle a été quand même réélue députée, à travers tout ce qu'elle a... donné comme idée sur le logement. Donc pour nous c'est important. Donc c'est un bon signe parce que c'est un ministère de plein exercice. Donc ça en jette, si je puis dire. Et sur la rénovation urbaine, pour nous c'est très important.
Bah oui,
parce que rénovation urbaine, qui dit rénovation urbaine dit requalification urbaine, réhabilitation. Donc peut-être derrière un ANRU dédié aux copropriétés, peut-être derrière une banque de rénovation dédiée aux copropriétés. Donc peut-être que ça, on va avoir des scoops à ce niveau-là.
Ça, j'en sais rien. C'est une super idée, une banque sur la rénovation urbaine.
Ah ben l'ANRU, oui, idée. Plutôt que de faire des pics ou un travail avec l'ANA, peut-être être dans l'ANRU aussi. Au départ, il n'y a que les bailleurs sociaux qui sont. Donc Et puis, dans ces premiers discours, nous, on capte la notion de RSE, économie, sociale, écologie. On est en plein dedans. Donc, on va certainement s'entendre.
Est-ce que vous l'aviez déjà rencontré à l'époque de
Absolument. L'ANRU ? Absolument. Du temps de l'ANRU, du temps quand elle était vice-présidente au Sénat.
Et elle vous a paru être vraiment à l'écoute et être la personne de la situation ?
Pragmatique, elle a pris des positions quand même aussi, hein, déjà. Donc, non, pragmatique, consciente de ce qui se passe dans le logement, la
et
crise du logement.
Et vous ne craignez pas, par exemple, vous espérez qu'elle ait obtenu des arbitrages avec Bercy ?
Ben, on espère, on va attendre la loi de finances 2025. Vous savez que nous, on demande la sanctuarisation de MaPrimeRénov, c'est extrêmement important. Et puis des clarifications sur qu'est-ce qui se passe au 1er janvier sur les locations G. Voilà. Qu'on a le droit, est-ce qu'on dit aux locataires bye-bye ? Est-ce qu'on dit aux propriétaires, ben non, vous allez avoir une réduction de loyer ? On n'en sait rien, parce qu'on attend des éclaircissements. Donc sur la loi de finances, vraiment, MaPrimeRénov, c'est le plus important, si je puis dire.
Ça vous fait pas peur, les rétropédalages, justement, sur le financement de MaPrimeRénov, avec 1 milliard, je donne, 1 milliard, j'enlève, 1 milliard, je donne, 1 milliard, j'enlève ?
Bien sûr, mais
en ce moment, c'est
réajusté depuis le mois de mai, donc il faut que ça perdure à partir du 1er janvier, ça c'est extrêmement important. Bon, de toute façon, on en a un peu ras-le-bol d'une réglementation qui change du jour au lendemain, d'une loi qui vient se cumuler à une autre, avec des contradictions de texte et avec des fautes de budget, l'absence de budget.
Le budget, il est quasi impossible à boucler pour l'année 2024, vous le savez. Hein, le budget, c'est un vrai sujet, hein, bien sûr, évidemment, on ne va pas se mentir. C'est un vrai problème de bouclage, de l'ordre de 25 milliards d'euros, pour trouver les ajustements. Vous espérez bien évidemment qu'on ne retoque pas encore. On rajoute de la RLS sur de la RLS, qu'on rabote bien évidemment les budgets pour MaPrimeRénov, mais surtout qu'il y ait des dispositifs qui relanceraient aussi le logement. Parce que, imaginons, je vous donne un exemple, qu'on sanctuarise les 5 ou 6 milliards d'euros qui sont prévus sur le financement de MaPrimeRénov. Qu'est-ce que vous attendez concrètement sur la relance de l'activité et de l'accession à la propriété ? On l'a vu, les primo-accédants ont été les premières victimes de la crise. Les taux remontent légèrement. On a regagné 2 fois 0,25%, soit quasiment 150 points de base sur les taux de crédit. Mais c'est quand même un peu léger et les prix ont baissé, mais pas trop. Comment on fait ? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement de ce truc pour essayer de tenter de relancer la crise du logement et notamment l'accès à la propriété ?
Déjà, de façon très élémentaire et très basique, je dirais qu'il faut arrêter de regarder un budget. Il y a des dépenses, mais il y a des recettes. Il faut arrêter de se dire les dépenses augmentent, donc je vais baisser les recettes. Yes. Voilà. Alors qu'en réalité, si les dépenses peuvent diminuer, certes, ou au contraire, peut-être un tout petit peu être réajustées, mais ça peut faire augmenter les recettes. Donc c'est important. À chaque fois qu'on regarde un budget, on se dit, bon, ben, finalement, je vais arrêter tel et tel produit parce que ça va me créer trop de dépenses et on ne regarde pas ce que ça va rapporter. Et ça, dans le logement, on sait très bien que le logement rapporte plus qu'il ne dépense. Bon. Ce qu'on attend aussi du budget, c'est peut-être une meilleure compréhension de ce qu'on demande sur le statut du bailleur privé particulier. C'est vraiment quelqu'un dont on a besoin pour loger les gens. C'est quelqu'un dont on a besoin pour rénover, puisque le parc ancien, c'est 60% des logements existants aujourd'hui. Et les bailleurs privés, ils logent des gens qui devraient être dans le logement social. Donc, par contre, l'Alliance pour le logement a plein de mesures qui sont assez, je dirais, homogènes entre elles. Mais peut-être qu'on n'a pas assez appuyé sur ce statut de bailleur privé. Peut-être qu'on n'a pas assez fait comprendre que ça allait rapporter de l'argent. Je pense que ça peut être aussi un travail qu'on peut faire en commun. Et l'Alliance pour le logement, c'est des gens qui sont dans une filière, qui ne pensent pas tous la même chose, mais qui sont capables d'être transpartisans au niveau économique. Donc peut-être qu'on attend la même chose pour le milieu politique.
Vous avez tous le même objectif, c'est relancer le logement, loger les Français, sans décourager l'investissement, bien évidemment. Ça serait formidable d'avoir l'amortissement, d'avoir un statut pour le bailleur privé. Ce serait topissime. Ça coûte pas si cher que ça à l'État. Hein. Vous l'aviez chiffré.
Ça rapporte moins de revenus fonciers, très clairement, mais le locataire, puisque c'est la condition, l'amortissement comptable en contrepartie d'un loyer en dessous du marché, le locataire a un loyer moins élevé, donc ça ramène un peu de consommation. Et puis le propriétaire, si on dit il faut absolument qu'il améliore son logement d'un point de vue énergétique, on a tout gagné, puisqu'avec l'argent qu'il n'a pas donné pour les revenus fonciers, il va réenclencher la machine économique. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Au niveau
Ouais,
de... Oui, parce parce qu'il n'y a pas que les promoteurs, il n'y a pas que il y a les entreprises de bâtiments. Regardez un logement neuf qui n'existe pas, par exemple, c'est un effet secondaire sur les cuisinistes qui installent plus de cuisine. C'est un exemple parmi d'autres.
Oui, oui. Tout ce qui induit finalement la fabrique du logement. Il y avait quelqu'un que j'avais reçu qui était le directeur du marché institutionnel d'Arkéa Banque qui disait, vous rappelez ce slogan dans les années 70-80 qui disait les emplettes sont nos emplois, là les logements sont nos emplois parce que la création de logements crée à peu près 2 ETP par logement construit.
Absolument, voilà. Et c'est beaucoup plus long aujourd'hui, il y a un entrepreneur sur 5 qui n'arrive pas à embaucher des collaborateurs à cause du logement qui n'est pas à côté de l'entreprise. C'est un sondage de la CPME nationale qui est consultable.
Dernier point, l'agenda que vous avez bien évidemment extrêmement chargé, vous préparez votre prochain congrès. On va donner les dates et où ça se réalise. C'est à Rennes.
Alors c'est le 10 et 11 octobre à Rennes, au couvent des Jacobins. Et le thème, c'est le rebond. Alors est-ce qu'on aura un rebond positif avec la ministre du Logement? On l'espère en tout cas, avec plein d'ateliers, des personnalités évidemment politiques, Madame Estrosi Sassone, etc., Lionel Causse, Annaïle Demeure, et puis j'espère Madame Létard.
Voilà, que vous avez bien sûr invité, qui vous a d'ailleurs très gentiment répondu, en espérant qu'elle soit présente justement le 10 et 11 octobre à Rennes au couvent des Jacobins, un lieu magnifique. Hein. Je vous encourage véritablement à suivre la programmation. Nous couvrirons d'ailleurs, et merci de votre confiance également, cet événement avec l'ensemble de vos réseaux. Combien de personnes attendu environ?
On va sûrement être comme à Marseille, peut-être 1000 personnes sur les 2 jours.
Pas mal.
J'espère qu'on arrivera à 1000.
Voilà, en tout cas, on vous souhaite un beau succès et bien évidemment, on espère tous avec notre nouvelle ministre du Logement, Valérie Létard, qu'on puisse relancer, réparer cette crise profonde. Je rappelle quand même que, in fine, c'est quand même du logement des Français dont on parle. Donc c'est une raison absolument importante et c'est même une priorité nationale. Merci, Daniel Dubrac.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes la présidente de l'UNIS. Merci. À suivre, on va retrouver notre ami président du réseau Procivis, Yannick Borde, également Nadia Bouillet, directrice générale d'Action Logement Groupe, que nous recevrons également. Je rappelle également que vers 13h30, nous recevrons Valérie Fournier, la directrice générale de 3F, qui, je rappelle d'ailleurs, est en campagne pour la présidence de l'Union sociale pour l'habitat. Donc, inutile de vous dire qu'on a encore un programme chargé. Et nous conclurons, bien évidemment, tout à l'heure également, avec Mathieu Massot, qui est le président de FDI Habitat, membre du réseau Procivis, et qui nous a accueillis pendant ces 2 jours exactement. C'est le régional de l'État. On a toujours beaucoup de plaisir à l'entendre et à le recevoir sur le plateau. Merci, Daniel Dubrac. On vous souhaite un excellent congrès et on se retrouve, les amis, tout à l'heure.
Merci. Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.